Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Que ne ferait-on pas lorsqu'on est frappé par la maladie? Si notre vie est en jeu, nous sommes alors disposés à subir à peu près tous les traitements prescrits, parfois des traitements qui sont très pénibles à supporter. C'est une réaction humaine, normale. Nous avons un instinct de préservation de la vie qui est très puissant. Lorsque le constructeur américain Henry Ford fabriqua ses premières voitures, celles-ci étaient livrées avec un carnet d'instructions expliquant le type de carburant et de lubrifiant à utiliser pour éviter les pannes et prolonger ainsi la vie du véhicule. C'est ce que font tous les constructeurs, aussi bien pour les automobiles que pour le matériel de génie civil, les gros appareils ménagers et autres types de matériel. Les industries diététiques et pharmaceutiques sont très diversifiées. Il existe tant de régimes et de médicaments pour prévenir ou traiter les maladies. Chaque médicament est accompagné de sa posologie. Nous trouvons tout cela normal. Mais nous oublions que Dieu, qui a créé l'homme, lui a légué un livre d'instructions pour qu'il reste en bonne santé et évite la plupart des maladies. Dieu lui expliqua aussi comment prendre soin de son corps. Bien que Dieu ait déterminé ce qui peut servir de nourriture, l'homme mange sans se soucier de ce qui lui convient ou pas, jusqu'au moment où la maladie le frappe. Selon les régions où les gens habitent, ils mangent des rats, des souris, des serpents, des fourmis, des larves, des chats, des chiens et j'en passe. Dernièrement, je lisais qu'au Cambodge, on vend au bord de la route de grosses araignées embrochées. Il suffit de les griller avant de les déguster. Pensez-vous que toute chair animale soit propre à la consommation? Lorsqu'on donne une alimentation qui ne convient pas aux herbivores, on sait les conséquences qui s'ensuivent, telles la maladie des vaches folles qui défraye régulièrement la chronique. Après la création de l'homme et de la femme, Dieu ne les a pas abandonnés. Il a pris soin d'eux. Adam et Ève avaient été créés à l'état d'adulte. Ils avaient l'intelligence, mais ne possédaient pas l'expérience car ils n'avaient pas bénéficié d'une enfance et d'une adolescence au cours desquelles ils auraient vu préparer la nourriture et tant d'autres choses que nous avons connues et que nous répétons sans réfléchir par simple habitude. Dieu dut leur expliquer ce qu'ils pouvaient manger, la manière de préparer les aliments, de faire du feu, leur enseigner l'hygiène, etc. Il ne s'agit pas ici de suppositions, mais de la logique même basée sur le récit de la Genèse. Lorsque Dieu chassa le premier couple du jardin d'Éden, il leur fit des habits de peau. À moins qu'il ne l'eût fait avant, c'est l'occasion pour Dieu de leur montrer comment tuer un animal, le dépouiller, le découper et le cuire. L'Écriture est implicite. Le premier couple dut recevoir un enseignement même sur les choses primaires. Certains pensent que l'homme a été créé pour ne pas manger de viande. Ils appuient leur affirmation sur le passage biblique suivant. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne tout air portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Parmi les herbes qui portent des semences, nous trouvons la belladone, la ciguë et la jusquiame, qui sont des plantes vénéneuses que nous devons absolument éviter. Ce verset ne les mentionne pas, et s'il ne parle pas de la chair animale, cela ne signifie pas qu'elle était exclue de l'alimentation d'Adam. Le livre de la Genèse est un récit condensé qui doit être vu dans son ensemble. S'il n'est pas fait mention des céréales ou du pain ici, cela ne signifie pas qu'Adam n'en mangeait pas. Nous en trouvons la confirmation dans le passage suivant. « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage, selon l'original de ton corps, que tu mangeras du pain. » Si Adam voulait encore manger du pain, il devait peiner, travailler le sol qui était maudit et aller produire épines et ronces, ce qui n'était pas le cas auparavant. On peut supposer que le troupeau d'Abel ne pouvait pas avoir sa seule raison d'être que pour le lait et le fromage seulement, car c'est à la suite de l'enseignement donné à Adam qu'Abel put faire une offrande des premiers-nés de son troupeau plus tard. La loi sur les animaux purs et impurs existait déjà, car Dieu n'aurait pas admis l'offrande d'un animal impur. Par conséquent, Adam devait savoir ce qu'il pouvait manger et ce qui n'était pas propre à la consommation. Cette loi était toujours en vigueur avant le déluge. C'est ce qu'explique la recommandation faite à Noé. « De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » Il n'était donc pas question de tuer et de manger ces animaux. Ils devaient rester en vie et être nourris. Noé devait donc faire entrer dans l'arche la nourriture destinée à sa famille ainsi que celle destinée aux animaux. Dieu ajoute, « Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. » En mentionnant les animaux purs et impurs, Dieu montre que cette loi existait déjà avant le déluge et que Noé la connaissait. Il mangeait donc de la viande. En demandant à Noé de prendre dans l'arche sept couples de tous les animaux purs de chaque espèce contre un seul couple des animaux impurs, il est indubitable que les couples supplémentaires devaient servir de nourriture pour Noé et les siens. De plus, Noé puisa parmi ceux-ci pour offrir des holocaustes. La Bible révèle que Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Les animaux ont été créés avant la création du premier homme. Ensuite, Dieu les fit défiler vers Adam pour qu'il leur donne un nom, et il est plus que probable que c'est à ce moment-là que l'Éternel expliqua comment reconnaître ce qui est bon pour la consommation et ce qui ne l'est pas. Certains partent du principe que la mort du Christ a mis fin à cette loi de la santé qui est détaillée dans les livres du Lévitique et du Deutéronome. Mais la mort du Christ n'a apporté aucun changement à la chair des animaux, pas plus qu'au système digestif de l'homme. Adam avait reçu des instructions orales, mais la toute première trace écrite destinée à l'homme, et je dis bien écrite, donc destinée à être préservée pour les générations futures, fut rédigée par Moïse sous la dictée de l'Éternel, et nous y trouvons les instructions alimentaires. Il s'agit d'une loi de la santé. Ce n'est pas une loi cérémonielle, ni un rituel. Elle n'a rien à voir avec les sacrifices, bien que l'on ne pouvait pas offrir en sacrifice des animaux impurs. C'est une loi fondamentale, ayant pour but d'éduquer l'homme sur la nourriture qu'il peut consommer. Voici cette loi de la santé que l'Éternel répéta à Moïse et à Aaron. « Voici les animaux dont vous mangerez, parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourché et qui rumine. » Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Vous ne mangerez pas le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourché, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. La traduction du rabbinat français traduit le mot impur par immonde. En parlant du lièvre, ce passage déclare qu'il rumine, mais ce mot est traduit de l'hébreu « hala » qui évoque aussi un mouvement des lèvres. Nous constatons que tous les mammifères qui n'ont pas le pied fourché et le sabot fendu et qui en plus ne ruminent pas ne sont pas propres à la consommation. La vache a le sabot du pied fendu et fourché. Elle rumine. Elle est donc propre à la consommation. C'est aussi le cas pour le veau, le mouton, la chèvre, le mouflon, le daim, le cerf, le chevreuil, l'élan, l'antilope, le buffle, le bison, la girafe, etc. Le porc a lui aussi le sabot fendu et fourché, mais il ne rumine pas. Il est donc impropre à la consommation, tout comme le sanglier, etc. Le cheval n'a pas le sabot fendu et il ne rumine pas. Il est donc impropre à la consommation, ainsi que le mulet, l'âne, le zèbre, etc. Le lapin, le lièvre, l'ours n'ont pas de sabot mais des griffes. Ils ne peuvent donc pas être consommés par l'homme, tout comme l'écureuil, le rat, la tortue, etc. L'Éternel poursuit en disant « Voici tous les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas de nageoires et des écailles. Tous les poissons qui n'ont pas le corps recouverts d'écailles doivent donc être éliminés de notre alimentation. C'est le cas pour l'anguille, les spadons, les sturgeons, l'alotte, le loup de mer, l'araille, le turbo, qui ont une peau mais pas d'écailles. Si l'on veut se plier à cette loi de la santé, il faut éliminer aussi tous les crustacés, homards, langoustes, crabes, crevettes et crevisses, et tous les coquillages comme les moules, les huîtres, les caricoles, les coquilles Saint-Jacques, etc., sans oublier les oursins, la seiche, le calmar. Les instructions divines pour préserver la santé ajoutent « Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas, l'aigle, le corbeau et toutes ses espèces, l'autruche, le hibou, la mouette, le cygne. » La description des oiseaux impurs montre que l'oiseau comestible ne peut pas être un oiseau de proie. S'il attrape sa nourriture en vol, il doit l'amener au sol avant de l'avaler, avoir un doigt médian allongé et un doigt postérieur. Lorsqu'il se pose, ses doigts antérieurs doivent se trouver d'un côté de la branche et le doigt postérieur de l'autre. Il doit encore posséder un jabot et son gésier doit avoir un revêtement intérieur facilement détachable. C'est le cas pour la poule, le canard, l'oie, la dinde, la caille, la perdrix, le faisan, la pintade, le grand tétras, le pigeon, le ramier, etc. Tous ces oiseaux conviennent comme nourriture pour l'homme. Le mot « cygne » est traduit de l'hébreu « tinshemet », qui aurait dû être pris comme « oiseau pourpre » ou à la rigueur « ibis ». Il s'agit d'un oiseau aquatique, le porphyrion ou poule d'eau, dont la taille atteint celle du canard commun. Le cygne, lui, est un oiseau pur. L'Éternel ajoute « Voici parmi les animaux qui rampent sur la terre ceux que vous regarderez comme impurs. Et nous y trouvons la grenouille, la tortue, le limaçon, et ceci est valable également pour les escargots et les serpents qui devraient être éliminés de notre table. Si vous examinez tout ce chapitre, ainsi que le cinquième chapitre du livre du Deutéronome, vous constaterez qu'il est permis de manger certaines sortes de sauterelles. La première réaction est de supposer qu'il ne reste plus grand-chose à manger. C'est ce que j'ai pensé aussi après avoir découvert cette loi. Mais détrompez-vous, il suffit que nous changions nos habitudes et nous constatons alors que lentement mais sûrement, bien des maladies s'éloignent. La semaine prochaine, je vous parlerai de rapports médicaux qui établissent la nocivité de la viande porcine et vous découvrirez que la plupart des maladies que nous connaissons sont provoquées par cette consommation. Nous verrons aussi pourquoi Dieu a créé tous ces animaux impurs et leur véritable raison d'être.